Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, tous les jours de la semaine tôt à la radio, et vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous écouter de bonne heure depuis le couvre-feu par exemple, et si vous n'êtes pas lève tôt, il y a bien sûr l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast disponible sur franceculture.fr ou en passant par l'application de Radio France. Notre semaine américaine se poursuit et nous emmène aujourd'hui à Marseille, aux portes des Calanques et plus précisément au château de Forbin qui accueille désormais un centre d'art dédié au mouvement post-graffiti des années 80 et donc à la scène new-yorkaise de l'East Village. Les œuvres d'une vingtaine d'artistes pionniers de cet art sont exposées dans la collection permanente. Et ce matin, je reçois Caroline Pozzo di Borgo, commissaire de l'exposition et co-créatrice du château de Forbin.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Drôle d'endroit pour cette drôle de culture. On peut voir des œuvres de Dandy White, de Futura 2000, de Lady Pink ou encore de Days, on en parlera, dans ce château, un château très français. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Di Borgo, merci d'être venue de Marseille pour
merci
nous parler de ce musée. D'ailleurs, c'est un nouveau musée puisqu'il a ouvert ses portes.
Tout à fait, il a ouvert ses portes le 25 juin dernier, donc aux portes des Calanques à Marseille.
Dans le 11e arrondissement et dans un endroit vraiment superbe, le château de Forbin, où quand l'art urbain devient graffiti, symbole de la révolte des jeunes New-Yorkais à la fin des années 70, se voit exposé dans un vieux château provincial. C'est quoi l'idée d'ailleurs de transformer ce château en musée ?
Alors l'idée était justement de proposer et de montrer ses œuvres dans un endroit différent de ce qu'on pouvait voir habituellement, à savoir une friche ou un hangar désinfecté. Donc l'idée nous est venue de les montrer dans un lieu historique pour la Provence, puisque ce lieu a appartenu à Palamède de Forbin, et le fameux Palamède au XVe siècle est celui qui a permis le rattachement de la Provence à la France. Donc il était avec Louis XI, et à la suite de ça, il a eu énormément de charges données par Louis XI, notamment la fortune, le commerce, et à la suite de ça, donc il a acheté différents lieux, il est devenu propriétaire de différents endroits en Provence, à Marseille, dont le château de Forbin, qui était au départ un relais de chasse. Donc petit à petit, ce lieu a évolué pour être ce qu'il est aujourd'hui, donc transformé au 19e, toujours par un palamède, donc, mais cette fois-ci au 19e siècle, avec par exemple des fenêtres Renaissance sur une des façades du château.
Et maintenant, c'est devenu un musée.
Et maintenant, c'est devenu un musée dédié au post-graffiti, donc à tous ces artistes qui ont commencé dans la rue dans les années 70, au début des années 80 pour certains, cette jeunesse qui était considérée comme une jeunesse vandale et hors cadre, quelque part, avec la fameuse bombe aérosol qu'ils utilisaient partout dans les rues de New York à cette époque-là.
Alors c'est l'histoire du mouvement que vous racontez à travers la collection permanente, c'est aussi l'histoire de l'art qui bascule, c'est-à-dire qui quitte les rues, qui quitte les rames de métro pour arriver dans le monde de l'art.
Ben, tout à fait. Alors, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que la première exposition qui a eu lieu de ces artistes, donc issus du graffiti, date de 1974. Donc, c'est un jeune sociologue qui était en fac à l'époque, qui voit ces métros et ces rames circuler dans les rues de New York et qui a conscience que finalement, ces jeunes sont en train de créer quelque chose d'innovant et de différent par rapport à l'art généralement admis. Mmh. Et il décide de les regrouper et les exposer à la Razor Gallery à Soho. Donc voilà. Au final, ça a commencé par Soho pour être exposé sur les murs des galeries très tôt. Donc quand on dit que c'est un mouvement jeune, ça a quand même presque 50 ans maintenant. Et la question, est-ce que ça a une légitimité sur les murs des galeries ou pas, n'a, je pense, plus forcément lieu d'être.
Alors, Caroline Pozzo di Borgo, avant de vous lancer dans cette aventure, avant de créer ce centre d'art à l'intérieur même du château de Forbin, vous étiez donc une collectionneuse de cet art.
toujours une collectionneuse de cet art, donc ça fait à peu près 15 ans que nous collectionnons avec mon mari.
Pourquoi ? Parce que ça vous renvoie à une époque de votre vie, de votre jeunesse.
Oui, certainement, au graffiti que je voyais dans la rue.
Vous avez vécu à New York ?
Non, malheureusement, jamais. Mais c'est vrai que j'ai toujours été fascinée par les graffitis et par le fait qu'à un moment donné, on ait envie d'écrire son nom dans un endroit, sur un mur ou sur un banc d'école ou à la fac ou quoi que ce soit. Et donc j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ça et à regarder et de fait arriver au graffiti new-yorkais et à toute l'évolution qu'il y a pu avoir dans le graffiti new-yorkais, parce que c'est vrai que dans le graffiti new-yorkais, au départ, on commence par le tag pur, donc juste l'inscription d'une signature sur un mur dans une rame de métro, et peu à peu tous ces artistes ont fait évoluer le graffiti.
Ça part d'un manifeste politique vraiment, le graffiti ?
Le graffiti new-yorkais, pas forcément. C'est-à-dire qu'à la base, c'était juste un problème d'identité et un problème de positionnement par rapport à la société new-yorkaise, où ils se disent, voilà, tous ces artistes font partie de ce qu'on peut appeler des minorités. Ils sont la majorité dans les entre guillemets ghetto new-yorkais, un problème de revendication par rapport à ça et un problème de reconnaissance, et ils utilisent la rue comme moyen d'expression.
Tous ces artistes sont les premiers, les pionniers de cet art.
Les pionniers de cet art, tout à fait. Ouais. Donc, ils ont créé différents styles, par exemple, la bubble, le wall style. Alors, la bubble, c'est une lettre que je pense tout le monde voit dans la rue à l'heure actuelle. C'est une lettre qui est très ronde et qui est très lisible, qui a été créée par un artiste qui s'appelle Face Two, que vous pouvez d'ailleurs voir à Forbin. Ensuite, il y a un autre style qui s'appelle le wall style. Donc là, c'est un style qui est totalement illisible par les non-initiés. Le but, c'est qu'on ne le lise pas. Donc là, c'est un autre artiste qui s'appelle Tracy qui l'a inventé. Ensuite, ils ont créé aussi des styles où le lettrage commence à devenir un lettrage en 3D. Donc là, c'est Ali, par exemple, qui l'a mis au point. Et petit à petit, au-delà du nom même, donc on dit que le nom est la foi du graffiti, peu à peu, ils intègrent dans ce nom et dans ce lettrage des formes, donc des flèches, des carrés, des ronds. Ils intègrent aussi ce qui est de la culture de masse, donc les comics, les références qu'ils ont avec le cinéma, etc., pour créer donc sur ces fameux wallcards, donc ces rames de métro, toutes les œuvres qu'on pouvait voir circuler à New York dans ces années-là. Et le but étant, pour tous ces artistes qui avaient créé des crews, donc des groupes de graffeurs, d'avoir la meilleure ligne et d'être le king of style.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces pionniers ? Ils sont toujours
Alors malheureusement, il y en a beaucoup qui sont décédés. Mmh. Et ceux qui sont vivants continuent à exercer leur art et à exposer dans les galeries du monde entier.
Et est-ce qu'ils sont cotés, comme on dit ? Est-ce qu'aujourd'hui...
Oui. Alors très tôt, ils ont fait partie du marché de l'art, qu'on ne sait pas forcément non plus. Et certains de ces artistes sont vraiment cotés sur le marché de l'art.
Alors, Caroline Pozzo di Borgo, en plus de ce château de Forbin, de ce lieu d'ailleurs magnifique, hein, c'est vraiment le château de Moulinsart. Et quand on rentre, et ben voilà, c'est New York des années 70, des années 80.
On est vraiment plongé dans cet univers, c'est vrai.
Mais oui, vous avez en plus, toujours à Marseille, une galerie qui s'est spécialisée dans le post-graffiti new-yorkais.
Alors c'est vrai qu'on avait...
Déjà un public pour ça.
Alors il y a déjà un public, il y a un public à l'international, et ce depuis les années 80, depuis qu'ils ont exposé en galerie, parce que très tôt, dès le début des années 80, donc ils ont commencé à exposer dans des galeries à New York, très tôt ils sont partis en Europe, exposer dans des galeries européennes, telles que Jackie Cornbeat par exemple, qui a été un des premiers à exposer Ramelzi. Et très tôt, de fait, ils ont fait partie aussi des foires internationales, comme Days par exemple, qui a participé à ce qui était Art Basel dans les années 80. Et avec mon mari, on s'est dit que voilà, on était marchands pour continuer à être collectionneurs au final. Donc c'est vrai que c'est les deux, c'est marchand-collectionneur, un peu comme on peut l'imaginer au début du XXe siècle.
Qui est intéressé par des artistes comme Lady Pink ou Futura 2000 ?
Alors c'est assez vaste, dans le sens où ça peut être au départ, ça peut être des collectionneurs qui étaient collectionneurs d'art moderne ou d'art contemporain pur, et qui ont décidé de s'intéresser à cette nouvelle forme artistique qui est un dernier grand mouvement artistique du XXe siècle, avec donc la spécificité des années 80 qui est la bombe aérosol, et spécifiquement la bombe aérosol, avec un travail sans travail préparatoire sur la toile, ou de nouveaux collectionneurs, les milléniums comme on peut les appeler, donc qui ont une quarantaine d'années et qui pour qui cette culture, parce que tous ces artistes ont également donné naissance à cette culture qui est la fameuse culture hip-hop, qui décide d'avoir chez eux donc les pionniers de cette culture ou de ceux qui ont participé, parce que c'est vrai que les baskets, la musique, ça les renvoie à leur premier amour.
Musée, mais aussi un centre de résidence pour les artistes, Caroline Pozzo di Borgo, comme si ce mouvement continuait en dehors de son contexte new-yorkais, en dehors de l'époque qu'il a vu naître.
Oui, tout à fait. Il est toujours en construction. Même les artistes eux-mêmes ont fait évoluer leur art. Donc, pour certains, ils continuent exclusivement à la bombe aérosol. Pour d'autres, là, ils utilisent de l'acrylique, l'huile pour certains. Et c'est vrai que c'est un mouvement qui n'est pas du tout figé. De toute façon, le graffiti est basé sur le mouvement. Et par rapport à leur forme artistique, ils continuent dans le mouvement et à créer de nouvelles choses.
France Culture, le réveil culturel, Toufik Hakem. And it ain't till 12 till the party really starts. And I always had to be home by 10, right before the fun was about to begin. Crowds of people lined up inside and out, just for one reason, to rock the house. But in the daytime, the streets were clear. You couldn't find a good freak anywhere, 'cause the freaks come out at night. The freaks come out at night. The freaks come out at night. The freaks come out. The freaks come out at night. Now when freaks get dressed to go out at night, they like to wear leather jackets, chains and spikes. They wear rips and zippers all in their shirts, real tight pants and fresh mini skirts. All kinds of colors running through their hair, and you could just about spot a freak anywhere. But then again, you could know someone all their life and might not know they're a freak unless you see them at night. 'Cause the freaks come out at night. The freaks come out at night. The freaks come out at night. The freaks come out. The freaks come out at night. Now the party's jumping, the place is packed, and when the crowd's like this, I'm ready to rap. But before I could buzz around on the mic, freaks are all over me like white on rice. Freaks come in all shapes, sizes, and colors, but what I like about them most is that they're real good lovers. They do it in the park, they do it in the dark, but most freaks are known for breaking hearts. You can never tell what a freak is thinking of, and you may never catch a freak without at least one glove. They don't walk, when they step, they strut, and nine times out of ten, they drive you nuts. So take my advice, you don't stand a chance. Freaks are so bad, they got their own dance. So if you wanna live a nice, quiet life, do yourself a favor, don't come out at night, 'cause the freaks come out at night. The freaks come out at night. The freaks come out at night. The freaks come out. The freaks come out at night.
Les pionniers de l'art urbain ont désormais un musée. Il est à Marseille, dans un château du 19e siècle, on peut le dire. Où...
Actuellement, les murs sont des murs du 19e siècle, mais la première pierre a été posée au 15e.
Voilà. Caroline Pozzo di Borgo, vous êtes la commissaire de l'exposition, mais surtout la co-créatrice avec votre mari de ce musée consacré à cet art qui vient quand même des rues de New York. S'il fallait parler maintenant des artistes, oui, les plus emblématiques, en tordant bien sûr le cou aux idées reçues. Par exemple, on dit qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes au début.
Alors, si, il y en a eu une qui s'appelait Lady Pink, qui a été une des premières femmes à aller dans les dépôts, parce qu'il faut encore se remettre dans le contexte de création au départ de la rue, et qui est passée très tôt sur les toiles. Donc par exemple, à Forbin, vous pouvez voir une œuvre qui date de 1981.
Et qu'on va retrouver d'ailleurs à la page du Réveil Culturel en passant par franceculture.fr. Oui, alors s'il fallait parler de cette toile.
Alors cette toile, donc, typiquement, est une toile qui a été réalisée uniquement à la bombe aérosol, sans travail préparatoire, avec une dextérité extrême au niveau du maniement de la bombe, parce que c'est vrai que toutes ces œuvres, quand on fait l'école des beaux-arts, quand on a un pinceau et une palette de couleurs assez vaste, ça peut paraître simple pour ceux qui sont doués en dessin. En revanche, quand on a une bombe aérosol à la main, arriver à faire ce genre d'œuvres, c'est différent.
Et c'est pour respecter l'esprit du graffiti qui était déjà là, c'est-à-dire de travailler très très vite, parce que on peut être arrêté par une patrouille de police.
Ah ben c'était des vandales au départ, donc ils avaient cette dextérité qu'ils ont continué sur toile. Donc certains artistes ont fait sur toile ce qu'ils faisaient dans la rue, tels que Blade par exemple, et d'autres ont fait peu à peu évoluer leur art et leur style, tels que Lady Pink, donc qui a fait évoluer son travail sur toile. Pour moi, ça représente une elfe. Après, à chacun, ça reste de l'art, donc à chacun à voir ce qu'il veut voir. Mais c'est ce côté un peu... Elle était très jeune quand elle a commencé dans la rue, elle avait 15 ans. Et c'est une œuvre qui est assez féminine, je trouve, et qui représente assez bien cet univers qui était quand même un univers de violence qu'on ne retrouve pas sur la majorité des toiles. Et c'est ça aussi qui est assez surprenant dans cet art. C'est la différence entre ce qu'il pouvait vivre au quotidien et ce qu'il faisait sur toile.
Elle date de
1981.
S'il fallait passer à un artiste plutôt connu, Futura 2000.
Alors Futura 2000, tout à fait. Donc là, par exemple, nous avons une dizaine d'œuvres exposées pour cette exposition inaugurale. Et une, par exemple, qui date de 1988.
Retrouvée sur franceculture.fr, à la page de l'émission Le Réveil Culturel.
Qui est un des premiers poetsmen qu'il a fait, puisque très tôt, il a réalisé donc des œuvres. C'est un des maîtres de l'abstraction. Et en introduisant des personnages qui s'appelaient des pointsmen et des H-men. Et Futura a été un des premiers à partir et à exposer en Asie avec cette spécificité-là pour ces personnages.
Est-ce que l'art ou les tableaux de ces artistes post-graffiti racontent quelque chose, délivrent un message ?
Je pense que ce qu'ils veulent montrer, c'est la liberté. Dans le sens où ils se sont affranchis des codes de l'époque, ils étaient dans la rue, ils se sont appropriés l'espace urbain, alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, et ils ont continué cet esprit-là sur toile, avec une volonté de mettre ce qu'ils étaient, ils étaient jeunes, quand ils sont passés sur toile, et de prolonger cette jeunesse et cette insouciance.
Est-ce qu'on peut faire des liens avec le pop art ?
Alors tout à fait, puisqu'ils ont commencé, certains artistes, à exposer dans les mêmes galeries que les artistes de pop art. D'ailleurs, une des premières expositions qui a utilisé le mot de post-graffiti, c'est la galerie Sidney Janis en 83. Et cet artiste-là a été un des premiers à exposer les artistes de pop art. Et il faisait partie également de cette scène d'East Village, ou de cette scène new-yorkaise, où c'était vraiment un regroupement d'artistes. Et beaucoup de ces artistes ont fréquenté Andy Warhol. Ils étaient dans le
Basquiat,
même groupe d'amis.
Sûr.
Basquiat, Kessaring, enfin tout ce groupement qui va au-delà du post-graffiti, au-delà du mouvement pop art. C'était juste des artistes qui étaient dans la même ville au même moment.
Ceux qui connaissent très bien ce mouvement connaissent Dandy White, mais je vous laisse le soin, Caroline Pozzo di Borgo, de nous parler de cet artiste. Pourquoi est-il si important dans ce mouvement artistique ?
Alors, Dandy White est considéré comme le style master général, c'est-à-dire qu'il est arrivé à une dextérité au niveau de la bombe aérosol et à une forme stylistique très spécifique, reprise par de grands nombres d'artistes à l'heure actuelle à travers le monde. Il avait une obsession, c'était la finesse du trait et la volonté de ne jamais montrer lorsque le trait commençait et le trait finissait. Donc il a utilisé la bombe aérosol, il a également fait énormément de papier, énormément de collages, et il a créé un langage au niveau de la lettre très particulier. Donc là, par exemple, on peut voir une œuvre à Forbin qui s'appelle Pré. Et Pré était le petit nom qu'il utilisait dans la rue, puisque forcément, il y avait un problème de reconnaissance, mais il ne devait pas montrer qui ils étaient dans la rue. Donc, ils se choisissaient des noms spécifiques. Donc, pour certains artistes, parce que c'était un nom qui était lié à l'histoire. D'autres, parce que les lettres, lorsqu'elles étaient mises les unes à côté des autres, étaient belles et que les artistes sentaient travailler avec ces lettres. Donc, Dandy White a eu, par exemple, un de ses alias qui était Pré. Et lorsqu'il est passé sur toile, il a utilisé Dandy White, Dandy étant le petit surnom que lui donnait sa grand-mère.
Pour terminer cette exposition que vous êtes en train de nous préparer pour la semaine prochaine, une exposition consacrée à Days.
Days aussi est un des pionniers du graffiti new-yorkais, a commencé très tôt, dans les années 70. Ça fait partie un des premiers de Sam & Seth Studio, qui était un des premiers ateliers à la fin des années 70, au début des années 80, à présenter le travail de ces artistes. Donc là, on va lui... Normalement, il devait venir en résidence à Forbin. Malheureusement, ça n'a pas été possible.
Pour des raisons sanitaires.
Voilà. Donc, il a produit l'exposition à New York.
Et,
Où il vit toujours. Donc, il a toujours son atelier dans le Bronx, qu'il partage avec un de ses compères de toujours qui s'appelle Crash. Donc là, on a fait une résidence délocalisée quelque part. Donc, il produit à New York, il nous envoie ses toiles et ses dessins. Et on va exposer donc, dans la galerie Henri de Jardin de Forbin.
Forbin, donc, qui accueille désormais un musée, un centre d'art dédié au mouvement post-graffiti, va-t-il s'ouvrir à d'autres artistes ou vous voulez rester dans cette période-là de
non, alors, l'idée
des années 80 et surtout la scène new-yorkaise de l'East Village?
Alors, par rapport à la résidence d'artistes, l'idée, bien évidemment, est d'ouvrir à la création contemporaine, mais avec une ligne directrice, c'est que chaque artiste qui viendra en résidence à Forbin devra à un moment donné avoir un lien avec le post-graffiti ou avec le graffiti ou avec la ville de New York. Donc c'est pas parce qu'il y a un artiste qui nous plaît qu'on va pouvoir lui proposer une résidence. On veut qu'il y ait vraiment une continuité entre les œuvres produites en résidence et les œuvres qui sont exposées sur les murs dans le musée.
Et tout ça, pas loin des Calanques à Marseille, dans le 11e arrondissement, le château de Forbin. Merci beaucoup d'être
merci
venue
beaucoup à
nous
vous.
En parler, Caroline Pozzo di Borgo.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et notre semaine américaine continue sur France Culture. Nous, on se retrouve demain. Et demain, comme tous les mercredis, on parle de cinéma et on va rendre hommage à John Huston, à sa filmographie, mais aussi à sa bibliothèque. À demain.
As I was told, everything that he touched turned to gold. He's the greatest of the great, I get it straight, he's great. Claim fame, cause his name is known in every state. His name is Jada, see him play, we'll make you say. Goddamn, that DJ made my day.